Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous, très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie de Mathias Sénard. Bonsoir à toi mon cher Mathias. Bienvenue parmi nous, vraiment heureux de te retrouver. Encore une fois, j'ai envie de dire, on a eu l'occasion à moult reprises de parler de ton travail et c'est toujours un plaisir. On va parler évidemment de ton nouveau livre en particulier et peut-être plus globalement aussi de ton travail en général. Ce nouveau livre qui s'intitule « Déserté » que tu as fait paraître aux éditions Actes Sud, ton éditeur historique à la rentrée littéraire de septembre 23. Un livre dans lequel on retrouve un certain nombre des motifs récurrents qui traversent ton œuvre. Je ne sais pas si on doit parler de tes obsessions personnelles ou des motifs récurrents de ton œuvre, on y viendra peut-être pendant cette conversation. On retrouve évidemment ton intérêt pour le rapport à l'histoire, à la violence de l'histoire, pourrait-on dire, à la violence de guerre en particulier, qui hante nombre de tes personnages au fil de ton œuvre. Elle est encore à l'œuvre dans ce livre-là. On retrouve également ton goût pour les confins et les frontières, mais on y reviendra là aussi pendant la conversation. Ton intérêt pour l'histoire de l'Europe, avec notamment comme point névralgique cette ville de Berlin. Là aussi, on en rediscutera pendant cette conversation. Et puis, bien sûr, cet espace méditerranéen que tu arpentes depuis maintenant un certain nombre d'années au fil de tes livres. Et d'ailleurs, depuis ton tout premier livre qui s'intitule « La perfection du tir », pour lequel tu avais été convié ici même à Chambéry il y a 20 ans. C'était hier.
20 ans aujourd'hui, presque.
On reparlera bien sûr peut-être de ce livre, on reparlera de Zone, évidemment, ce livre qui t'avait valu le prix Inter et qui était un livre d'ailleurs qui se situait plutôt du côté de l'archive que du côté de la sensation, mais on y reviendra là aussi pendant la conversation. On parlera peut-être aussi de Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants qui t'avait valu le Goncourt des lycéens, Boussole pour lequel tu avais eu le Goncourt des grands, pourrait-on dire, des adultes. Et puis, on parlera peut-être de ta parenthèse poitevine avec ce banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, avec ce retour à Niort, toi le grand voyageur. Peut-être sera-ce l'occasion d'en dire un mot pendant cette conversation.
Magnifique.
Un menu copieux. J'espère que vous avez 3 heures devant vous, n'est-ce pas ? Je vais dire un mot de Déserté, puis on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre, qui est ton livre le plus récent. Je le disais, un livre construit sur deux plans narratifs, sur deux fils narratifs. D'un côté, l'histoire de ce personnage qui s'appelle Paul Eudbert, qui est à la fois mathématicien et communiste. Hein, ce sont les deux grandes caractéristiques de son existence. Qui traverse le XXe siècle, puisqu'il est né à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'il meurt au milieu des années 90, suite notamment à la guerre de Bosnie, qui est un autre point qui t'intéresse et que tu as déjà exploré dans ton travail. Et puis, bien sûr, parce qu'il est marqué aussi par la déportation dans le camp de Buchenwald. C'est évidemment une étape centrale dans le parcours de ce personnage, qui nous est d'ailleurs raconté a posteriori par sa fille, Irina, dans un temps présent qui est le temps du retour de la guerre en Europe et de l'invasion russe en Ukraine. Et puis il y a donc un deuxième fil narratif qui est un fil beaucoup plus poétique, beaucoup plus ténu par rapport au précédent, dans lequel tu mets en scène précisément ce déserteur, ce soldat qui a quitté la guerre, qui l'a laissé derrière lui, mais qui en a encore les stigmates, évidemment, qui fuit comme ça vers le nord, vers la frontière, pourrait-on dire, vers les confins, et qui va au fil de son périple, à la fois retrouver les lieux de l'enfance et puis rencontrer cette femme et surtout cette âne dont on reparlera là aussi pendant la conversation. Petite question d'intro très simple, j'évoque ces deux fils et ça paraît très simple une fois qu'on a le livre entre les mains, mais j'imagine que tout ça se construit au fil de l'écriture. Peut-être peux-tu nous dire comment est-ce que tu es parti ? Est-ce que tu avais d'emblée ces deux couloirs de narration ? Est-ce que tu as commencé par l'un et ajouté l'autre ? Comment est-ce que tu as conçu ce déserté ?
Ben bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir que d'être ici à Chambéry. Donc pour la 20e année, alors pas consécutive, on m'a pas invité 20 fois, mais néanmoins pas loin. Je pense que Chambéry est le festival où je me suis rendu le plus dans ma carrière d'auteur, et à chaque fois avec grand plaisir, parce que c'est évidemment retrouver une ville qui est ce qu'elle est, mais c'est aussi retrouver des gens et des lectrices et des lecteurs qui ont lu mon premier roman et puis qui ont lu la suite. Et donc, c'est une façon d'échanger aussi sur l'œuvre. On sait que c'est des gens qui ont des préférences pour certains des aspects de mon travail. Voilà, qui commence finalement, on se connaît, quoi. C'est un peu la famille. Et comme la famille, on ne la choisit pas vraiment. Hein, voilà, elle est là. Mais bon, c'est très positif puisque je reviens. Je pourrais aussi ne pas revenir en me disant. Il y en a plein d'ailleurs hein, qui disent non, une fois c'était suffisant. Mais non, moi je j'aime beaucoup. Voilà, je suis très, à chaque fois très heureux d'être là, même si c'est toujours très, très rapide comme passage chambérien. Et donc je réponds à ta question. En fait, le déserter, d'abord c'est vraiment. Comme toujours, quand le livre est terminé et puis qu'on en parle beaucoup, on se rend compte soi-même des points qui ont marqué un peu sa genèse ou comment est-ce qu'il s'est construit. Et alors c'est vrai que le premier projet, même avant que de commencer à écrire réellement, parce que souvent dans mes livres, il y a un travail d'imaginaire, d'imaginer ce que va être le roman, mais aussi de recherches très concrètes sur un sujet. Et la première partie du projet, c'est vraiment Paul Hudberg. C'est ce personnage qui, pour moi, je cherchais à répondre à cette question. Comment est-ce qu'on pourrait raconter le XXe siècle depuis aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a été ? Alors, pourquoi je me suis posé cette question ? Très concrètement, littérairement parlant, parce que on m'a remis un prix en Allemagne, à Weimar, donc la ville du grand classicisme, de la littérature allemande, de Goethe, Schiller, Lenz, voilà, la ville qui rejoint à la fois le premier Sturm und Drang et puis le romantisme, vraiment la grande ville de littérature allemande. Et juste après Boussole, c'était pour un prix pour Boussole, et la veille de la remise du prix, il y avait un dîner dans un château sur le Lettersberg. Alors Lettersberg, c'est la montagne où Goethe aimait aller se promener, c'est là qu'il a écrit, c'est pas lui qui les a écrits, mais où il a eu ses fameuses conversations sur Lettersberg avec celui qui l'accompagnait, qui était son jeune secrétaire. Donc c'est un peu la montagne sacrée de la littérature allemande. Et là, il y a un petit château, un relais de chasse qui appartenait à la reine Amélie, c'est-à-dire bon, la reine de la cour de Iéna, où elle recevait des auteurs, et notamment Schiller, par exemple, a passé un mois dans ce château où il a écrit sa pièce de théâtre, Marie Stuart, un peu comme on est en résidence d'auteur aujourd'hui de nos jours, sauf que là, apparemment, il faisait très froid, bref. Il était tout seul au milieu de cette forêt. Donc c'est une espèce de montagne. Moi, c'est un petit mont. Pour vous, ce ne serait pas vraiment une montagne, ce serait une colline. Et ce château, qui pendant l'Allemagne de l'Est était devenu un EHPAD. En allemand, c'est plutôt une résidence pour vieux. On peut dire le mot. Avait été transformé entre-temps en hôtel. Et restaurant. Alors c'était tout rénové, c'est très beau. Et puis là, il y a un dîner assez officiel où il y avait des gens parmi ceux qui me remettaient ce prix. Et notamment un homme politique allemand qui s'appelle Norbert Lammert, qui est un monsieur d'un certain âge maintenant, qui avait été président du Bundestag, enfin quelqu'un de très important en Allemagne. Et qui me dit. À chaque fois que je viens ici, c'est toujours avec des écrivains. La dernière fois que j'étais là, c'était avec Georges Semprin. Et je lui dis, ah bon, vous étiez ici avec Semprin. Moi, j'ai beaucoup aimé Semprin. J'ai eu la chance de le rencontrer un peu. Et il me dit, oui, j'ai accompagné ici Semprin. Même la dernière fois où il est revenu à Buchenwald pour la cérémonie de la libération de Buchenwald en 2011. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi, c'est où Buchenwald ? Et il me regarde comme ça, un peu surpris. Il me montre le jardin. Alors, effectivement, il y a une espèce de la colline descend, puis elle remonte. Et puis, il y a un très, très beau jardin à l'anglaise, un peu en trompe-l'œil, d'une prairie qui est coupée, ou la forêt plutôt, est taillée un peu en biseau pour donner l'impression que ça monte encore plus. Et il me dit, c'est là. Et bien sûr que pour moi, tout le monde sait évidemment que oui, Buchenwald, c'est à Weimar, Buchenwald, c'est là. Mais je n'avais jamais fait ce rapprochement de à quel point, finalement, toutes ces choses étaient mêlées et à quel point se rencontraient là à la fois la plus haute littérature et le camp de Buchenwald. Et là, je me suis dit, mais oui, voilà, c'est un de ces points-là à partir desquels, ou grâce auxquels, avec lesquels, ou on ne sait pas trop comment lesquels, on a envie de raconter justement le XXe siècle, qui est un peu... Georges Semprin déborde un peu, et surtout il représente surtout la deuxième moitié de ce siècle, et puisque bon, il est mort il n'y a pas très très longtemps, mais c'était quand même un indice qu'il y avait là quelque chose, une matière à partir de laquelle je pouvais travailler. Et je me suis dit, oui, là il faut commencer justement à réfléchir, hein, à comment, sans que Buchenwald soit le centre de rien, hein, la question n'était pas du tout de raconter la déportation, les déportés eux-mêmes l'ont beaucoup fait, les historiens ont beaucoup travaillé, mais de faire en sorte que ce lieu-là soit un peu le centre d'un récit qui puisse, voilà, mettre un peu dans une longue perspective ce qu'a été le XXe siècle et dont cet endroit représente bien les tiraillements et les contradictions. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, là ça a rencontré une autre idée qui était en plus ancienne, d'écrire sur les mathématiques ou à propos de mathématiciens. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un peu mon personnage. Et donc, déporté, communiste, comme l'avait été Semprin lui-même, même si Semprin quitte assez vite il se déstalinise, il s'auto-déstalinise à un moment et quitte le parti avec pertes et fracas. Hein, et bon, il a très bien raconté là aussi lui-même. Et c'est comme ça que Paul Hotbert était encore en gestation, j'avais presque pas de texte écrit, hein, réellement, quand l'invasion de l'Ukraine a eu lieu. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Je ne sais pas pour vous, mais ça a été un double choc. D'abord parce que bon, ça voulait dire que la guerre était de nouveau possible, d'une façon très déclarée, pas du coup du tout des échauffourées ou des escarmouches sur des territoires, disons, disputés. Mais là, vraiment, une intervention militaire franche et massive. Et j'y croyais pas du tout. Je ne pensais pas que c'était possible. Alors vous allez me dire, c'est drôle parce que vous avez écrit dans un livre, effectivement, j'ai écrit dans un petit livre, L'alcool et la nostalgie, que la Russie allait essayer de reprendre toutes les pièces de son ancien empire, morceau par morceau, Géorgie, Ukraine... Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas. Je me disais, ça changeait tellement de choses pour moi. Cette idée que le conflit, disons, se réactive en quelque sorte, hein, cette guerre revienne sur le sol européen, que jusqu'au dernier moment, j'y ai pas cru, voilà, tout simplement. Et je me suis dit, non, il faut trouver un moyen, hein, que une forme de réalité de la guerre rentre dans ce projet de livre. De quelle façon, je ne savais pas vraiment. Et puis, c'est là que j'ai imaginé, voilà, cette seconde histoire, qui est celle de ce déserteur qu'on retrouve nu, pratiquement, juste avec son arme et son uniforme, et qui va raconter d'une autre façon ce XXe siècle, vraiment dans l'aspect le plus sensible, le plus matériel. Et donc, en fait, j'avais deux récits qui s'opposaient l'un à l'autre. Un qui était, au contraire, écrit avec une forme de la confiance de l'histoire, on pourrait appeler ça comme ça, une historienne, donc qui est la fille de Paul, qui fait le récit de la vie de son père et de sa mère, un récit... extrêmement historique, comme on a l'habitude d'en lire, où il est question de noms de lieux, de dates, d'endroits, de personnes, de faits très raconter, voilà, avec cette langue assez simple des historiens, mais en même temps extrêmement dense. Et puis de l'autre, exactement l'inverse. Une autre histoire dans laquelle il est exclusivement question de l'aspect sensible, dans le sens le plus large du terme, même de la perception. Il n'y a pas de nom propre, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand. Ça fonctionne juste par des descriptions intérieures, extérieures. On reconnaît une forme de paysage méditerranéen. On sait qu'on est à cet endroit, mais qui est très fréquent en Méditerranée, au début des montagnes. On a laissé la plaine côtière. Il y a encore, c'est l'endroit où cohabitent encore quelques orangers, quelques agrumes, donc on sait qu'il ne fait pas trop froid l'hiver et la nuit, mais les premiers oliviers apparaissent, et là, seulement quelques dizaines de mètres plus haut, c'est vraiment déjà la montagne, hein, et on rentre dans un autre monde, une espèce de garrigue, de maquis, et on se trouve là, voilà, à cette frontière-là, entre ces différentes hauteurs, on ne sait pas où, on sait juste de cet homme, voilà, qu'il est ce qu'il est. Il a son arme et son uniforme. On sait à peu près ce qu'il a laissé derrière lui, c'est-à-dire le pire que peut faire la guerre. Mais en même temps, il n'est pas encore dans la paix. Il cherche à fuir, il est dans cet entre-deux. Donc on est dans beaucoup d'entre-deux à la fois. À l'intérieur même de la frontière, parce que les frontières, on nous les représente comme des lignes, hein, mais bien souvent, elles ont une épaisseur. On ne peut pas les franchir aussi facilement que ça, ou se heurter à un mur aussi facilement, très précis. Parfois, elle s'étale sur plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de profondeur. Donc là, on est là. On est dans ce temps entre la guerre et la paix. Et de quelle façon est-ce qu'on peut... La question du texte, c'est est-ce qu'on peut vraiment laisser la guerre? De quelle façon? Quand tout est détruit autour de soi, comment est-ce qu'on reconstruit à partir de rien soi et sa relation au monde? Et donc ces deux histoires, celle de Paul et celle du déserteur, et tu l'as dit, de la jeune femme qu'il rencontre, elles vont un peu se tresser l'une l'autre. Je l'ai vraiment écrit comme on lit. Hein. Après, une fois que j'avais tous ces éléments-là, c'est allé assez vite. Et pour moi, l'image, la figure, c'est vraiment celle de la tresse. Et donc ces histoires ne sont pas parallèles. Non, elles s'entrecroisent sans se toucher, un peu comme le fait une tresse, mais elles échangent beaucoup de choses. Et puis à la fin, il y a un élastique, généralement, comme dans la plupart.
Il y a un élastique. C'est intéressant quand tu parles de ces deux dimensions, parce qu'on parlait des livres précédents, et on pourrait presque penser que ce livre-là réunit la manière que tu as eue dans La perfection du tir, c'est-à-dire ce personnage de tireur d'élite qui était totalement déconnecté d'un certain nombre de réalités. On ne savait pas où on était, même si, après en avoir discuté ensemble, on se dit que c'est Beyrouth. En tout cas, une écriture assez poétique, déconnectée finalement des contextes. Et puis, si on prend Zone, qui est un livre au contraire de l'archive, de la date, de l'information, de l'histoire au sens strict du terme, on pourrait presque lire ce livre-là, Déserté, comme un entremêlement de tes deux manières, dans La perfection du tir et dans Zone.
C'est très très juste. Alors, évidemment, quand j'écrivais, je ne m'en rendais absolument pas compte. Mais oui, il y a ça, il y a un peu ces deux pièces, enfin ces deux faces de la même médaille, hein, ou de la même pièce, qu'on retrouve dans différents livres et qui là sont vraiment, vraiment ensemble. Oui, tout à fait. Mais ça m'a demandé pas mal de courage, et j'en manque absolument, totalement. Donc, bien évidemment, j'ai proposé immédiatement à mon éditeur de les séparer en disant, par pure lâcheté, en disant non, bon, c'est comme ça, j'ai écrit ça comme ça, mais je comprends bien que bon, peut-être c'est mieux séparément. Et l'éditeur, Bertrand Pie, pour ne pas le nommer, a immédiatement réagi en me disant mais non, pas du tout, du tout. Au contraire, ce que les deux histoires se racontent l'une à l'autre, de quelle façon est-ce qu'elles se répondent par des choses qui sont pas... On s'attend à ce que ce soit les personnages qui communiquent. Toujours quand on lit comme ça deux histoires, déformés que nous sommes par une forme de narratologie intérieure qui décide avant comment va être le texte que nous allons lire, on s'attend à ce que ce soit les personnages qui se retrouvent quelque part, qui communiquent. Un personnage dans l'autre, ou peut-être ils vont se rencontrer, il va peut-être se passer quelque chose, où on va apprendre pourquoi est-ce que ces deux récits sont là. Alors qu'en fait, les deux récits, les deux histoires communiquent énormément pour moi, mais dans un autre ordre, qui est un niveau à la fois plus, peut-être plus subtil, moins premier, mais en même temps qui est vraiment très lié aux mots réellement employés, hein, et à la matière de ces mots. Et donc c'était à la fois absolument passionnant à écrire, et maintenant que c'est fait, je me dis, bon, finalement, j'ai bien fait de pas les séparer. Alors, il y a toujours des grincheux, comme un de mes meilleurs amis, Claro, qui est un auteur respectable, néanmoins, et qui me dit... Ouais, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc de feignant ? T'avais les deux machins, tu les as mis ensemble. Et voilà, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai, il me croit toujours pas d'ailleurs. Bon, bref.
Mais... C'est bien d'avoir des amis.
Oui, oui, bah. Ça, au moins, c'est des amis francs et sincères. Donc, voilà, il y a un peu. Mais maintenant que le livre est fait, et puis, vit son chemin, qui a plutôt d'ailleurs été. Était très bien accueilli, que ce soit par la presse ou par d'autres amis. Et même à l'étranger, étrangement, là, il est sorti en Allemagne. Et je me suis dit, oh là, les Allemands, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette histoire qui ne va pas leur apprendre grand-chose ? Peut-être si un peu, est-ce que mon portrait de l'Allemagne de l'Est va les intéresser ? Cette espèce de raccourci comme ça de et finalement, même cette façon un peu mystérieuse en fait de jouer avec les deux récits, ça a aussi plu à la presse allemande. Voilà, ce qui est quand même
Peut-être un petit mot. Tu as évoqué Semprin tout à l'heure,
oui, bien sûr,
et sur la façon dont ça a provoqué quelque chose autour de ce lieu de Weimar et de Buchenwald. Ödberg, c'est un personnage fictif. Et c'est pour autant sans doute quelqu'un que tu as construit, un personnage que tu as construit avec un système de référence, avec un ancrage finalement dans le réel. Alors peut-être y a-t-il Semprin pour le rapport à la déportation, pour la question du communisme. Voilà. Peut-être y en a-t-il d'autres du côté des mathématiciens.
Bien sûr.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi, tu n'as pas ancré un personnage réel dans ce temps ? Pourquoi tu as choisi un personnage de fiction et comment est-ce que tu l'as construit ? Comment est-ce que tu l'as organisé ?
Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi un personnage de fiction ? Je sais pas, j'aurais peut-être pu trouver un personnage. Bon, la plupart des personnages que fréquente Paul Ödberg sont historiques. Hein. C'est des mathématiciens tout à fait. Oui, historiques. Et c'est vrai que Paul Ödberg, lui, il est inspiré de différentes figures qui ne sont pas forcément tous mathématiciens. Il y a aussi quelques hommes de lettres, comme Semprin, Jean Améry. C'est parce que Paul, finalement, c'est quand même un concentré, un résumé. Il concentre en lui plusieurs histoires. Et même si j'avais pu trouver un personnage de mathématicien réel tout à fait intéressant, il n'aurait pas eu forcément lui-même tous les éléments qui m'intéressaient moi à ce moment-là. Donc c'était finalement plus simple de construire un personnage de fiction. D'autant plus que j'ai peut-être maintenant plus de réticence que quand j'étais jeune à inventer une vie à des gens qui ont réellement existé. Et en fait, on est toujours obligé de le faire en réalité quand on écrit des romans. Admettons que Paul Ödberg ait existé, il y a sans doute énormément de choses de lui qu'on n'aurait pas su, que j'aurais été obligé d'inventer de toute façon. Donc, je préférerais que ce soit un personnage de fiction, même si sa vie s'insère complètement dans un monde tout à fait, lui, pour le coup, documenté. Que ce soit celui de l'Allemagne de l'Est ou ou celui des mathématiques de l'école de Göttingen, des mathématiques des années 20 et 30. Et puis peut-être parce que j'aime bien faire des recherches, ça m'occupe. Et donc, même si à la fin de ce que je dis de la mindless, il n'en reste pas grand-chose, ce pas grand-chose est assis sur une espèce de montagne de trucs. D'ailleurs, je vends une bibliothèque très spécialisée sur l'Allemagne de l'Est.
Dont tu n'auras plus usage.
Dont je n'aurai plus usage, a priori. Voilà.
Peut-être revenir sur cette double caractéristique. Je disais d'emblée, effectivement, un mathématicien communiste. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se développe aussi autour de ce personnage et tout ce qui a à voir avec l'espoir, avec l'espérance, avec l'utopie. Et c'est vrai dans les deux dimensions. Il y a évidemment la question idéologique, l'utopie communiste et la fidélité qui est celle de Paul à ce mouvement, à cette idée, à cette utopie, malgré les tragédies du 20e. C'est une des données de ce personnage-là. Et puis, il y a de l'autre côté le rapport aux mathématiques, comme là aussi, une espèce de mouvement utopique, un mouvement d'espérance, d'une certaine manière, qui a traversé le 20e. Est-ce que, finalement, c'est à travers ce fil-là de l'utopie que ces deux dimensions de Paul se rejoignent ?
Oui, tout à fait. Paul, peut-être même avant d'être mathématicien, il est communiste. Et ça lui arrive, ça lui parvient au même moment. Donc Paul grandit dans les années 20 et c'est un peu le fils adoptif d'une grande mathématicienne de l'époque qui s'appelle Emmy Noether, qui était une des premières femmes à arriver vraiment au sommet des mathématiques allemandes à Göttingen. Et à tel point qu'on a été obligé de la faire passer pour un homme pour qu'elle puisse enseigner, un peu comme dans une histoire du siècle, du 19e ou du 18e siècle. Il a fallu tricher sur ses papiers. Enfin, c'était une des premières femmes à enseigner en chaire. Elle a mis très longtemps avant d'être nommée, mais finalement, elle a été nommée professeure à Göttingen. Elle est l'autrice de ce fameux théorème d'Emmy Noether, que les physiciens, surtout, utilisent encore beaucoup aujourd'hui. Et elle était juive et communiste. Et bien sûr, c'est ce qu'elle a transmis à Paul Hudber. Ses deux jambes, comme il dit, voilà, il marche lui sur deux jambes. Et effectivement, c'est deux visions d'une forme d'utopie. En tout cas, de quelque chose qui se projette. Alors les mathématiques, c'est peut-être une projection générale, une façon de voir le monde. Comme quelque chose qui perfectionne le monde à partir, grâce aux mathématiques, on voit le monde parfaitement et donc on peut l'envisager et envisager ses différentes composantes entre elles sans être complètement sans être plus ennuyé par leur imperfection, justement, hein, par le fait qu'elles ne s'adaptent jamais au modèle. Bon. Et le communisme, c'est un peu ça, c'est aussi une espèce de vision de l'avenir où on se dit c'est le modèle qui peut sur la réalité et ce qu'on cherche à atteindre, l'espoir de ce qu'on peut atteindre par le communisme est tellement immense que ça justifie tous les sacrifices qu'on va faire pour lui. Et cette question de l'infinité, un peu de l'espoir, il y a beaucoup de communistes qui s'y sont accrochés jusqu'à la fin en disant oui, on est bien conscient, parce que Paul Hudber, c'est pas un idiot, hein, c'est pas quelqu'un qui vit dans sa tour d'ivoire. Il est bien évidemment conscient de ce qui se passe en Allemagne de l'Est, du fait qu'ils sont espionnés, qu'ils sont pas libres de leur mouvement, que économiquement c'est de plus en plus une catastrophe, que voilà, la liberté n'est pas là, et surtout le fameux bien ou bonheur pour tous n'est pas là non plus. Mais il pense que c'est provisoire, que effectivement le parti ne donne pas toujours le meilleur de lui-même, et surtout pas les camarades qui parfois se laissent un peu aller à des conditions secondaires, à des questions secondaires, mais néanmoins ça va venir, on va y arriver. Et cet espoir, même si aujourd'hui il nous paraît complètement enfin, très lointain, hein. Ça me paraît très étrange, mais c'était encore le cas pour des générations de communistes qui y ont cru, et certains y croient encore. Et donc, oui, Paul, il représente un peu ça, cet entêtement dans l'espoir, alors que tout le monde l'a évidemment abandonné autour de lui, cet espoir. Y compris l'Allemagne de l'Est elle-même, bien évidemment. Personne ne croit plus à cette question. Parce qu'il y avait deux questions qui étaient vraiment importantes dans l'Allemagne de l'Est. C'était, et surtout pour ces gens qui sortaient de Buchenwald, parce que c'est là qu'est vraiment né le... En tout cas, c'est comme ça que l'Allemagne de l'Est a aimé présenter un peu ce communisme est-allemand. C'est ceux qui sont antifascistes, résistants, hein, et qui se sont battus depuis... les camps de concentration pour la libération et donc l'avènement d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, pendant toute l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire jusque dans les années 90, à Buchenwald, il n'y avait pas de musée. Il y avait des monuments à la gloire de l'antifascisme. Des monuments... Enfin, incroyable, qui célébrait cet endroit. D'ailleurs, c'est l'Allemagne de l'Est qui a détruit les baraquements, qui a détruit le grande partie du camp. Ils ont conservé que quelques bâtiments pour en faire un mausolée un peu, hein, à la gloire de ces antifascistes. Et aussi un peu pour dissimuler que les soviétiques avaient réutilisé le camp dans les années 40 et qu'il y avait eu aussi des dizaines de milliers de morts. Mais aux mains des soviétiques dans l'immédiate après-guerre. Bon, ça c'est toujours un peu la question de ces régimes. Mais néanmoins, et on les voit encore, hein, ces monuments, quand on va à Buchenwald, on voit évidemment l'immense honneur que fait la patrie, que rend l'Allemagne de l'Est à ses combattants antifascistes. Donc, bien sûr, c'est une histoire qui irrigue un peu tout le récit est-allemand. Il y a les ministres, les premiers ministres qui sont sortis de Buchenwald, qui vont devenir des gens extrêmement importants. Grande partie du personnel politique de l'Allemagne de l'Est est passé par Buchenwald. Ils étaient tous communistes. Et ils ont organisé à l'intérieur du camp la résistance, ils ont sauvé des gens comme Georges Semprin. Par exemple, Semprin, il a été sauvé par les communistes allemands. Donc, tout ça, c'est pas rien. C'est un gros dossier, mais qui vit encore avec toute cette génération et que voilà, Paul Hudebert, modestement, représente un peu. Cette ténacité qui fait qu'il peut pas lâcher, surtout pas lui. Sinon, tout s'effondre, en fait.
Il y a un point aussi dans le livre et un point, finalement, une date qu'on n'a pas évoquée mais qui est centrale dans le livre, c'est le tout début du 21e siècle, le 11 septembre 2001. On décrit, et c'est Irina qui décrit ce colloque qui a eu lieu autour de Paul Hudebert, une sorte de colloque pour rendre hommage à sa vie, à son œuvre, à son parcours. Et ce colloque-là, il est percuté évidemment par les événements du 11 septembre 2001. C'est amusant parce que tu parlais, enfin amusant, je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi, mais tu parlais du rêve d'un monde meilleur, et finalement le capitalisme en a été un autre, de rêve d'un monde meilleur ou d'un monde de bonheur d'une certaine manière. Et ce point-là est peut-être le moment où l'illusion où le mythe s'écroule sous nos yeux. Peut-être tu peux nous parler de la nécessité ou de l'envie que tu as eu de placer aussi ce temps-là dans le roman.
Bah, si mon idée c'est de raconter un peu le 20e siècle à travers l'histoire de Paul Hudebert, il fallait un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ chronologique, c'est le congrès des mathématiciens à l'été 1900 à Paris pendant l'exposition universelle qui est un événement extrêmement important pour l'histoire des mathématiques, puisque c'est là que Raoul Hilbert présente ces fameux problèmes de Hilbert qui sont le programme des mathématiques pour le XXe siècle. Et donc tout n'est pas encore terminé. D'ailleurs, il y a encore des problèmes qui restent ouverts parmi ces problèmes de Hilbert. Donc ça, c'était le point de départ. Et le point d'arrivée, qui n'en est pas un, parce que ce qui est très troublant aujourd'hui, c'est qu'on voit à quel point il y a une forme de long XXe siècle, hein, qui survit, et notamment dans les discours de Vladimir Poutine. Alors maintenant, c'est plus que des mais même les Ukrainiens aussi utilisent très facilement des références à la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils sont peut-être métaphoriques, ou en tout cas propagandistiques, hein, dans le cas de Poutine, mais on vous parle encore de qu'il faut dénazifier l'Ukraine, que la Grande Guerre patriotique dure encore, en réalité, si on écoute Vladimir Poutine. Hein, et tout ça n'est pas terminé. Mais disons que le 11 septembre 2001, alors que depuis justement la chute des régimes communistes, les penseurs capitalistes américains pensaient que c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire c'était justement la fin de cet affrontement entre capitalisme et communisme, signifiait que on a gagné. Donc si on a gagné, c'est que le bonheur est là. Hein. Et puis tout de suite, en Europe, on a vu que la guerre, quand même, venait un peu mettre une ombre dans ce tableau idyllique avec la guerre en Yougoslavie, début des années 90. Et ensuite, le 11 septembre 2001, c'est vraiment le moment où on se rend compte que ces réseaux qui étaient ces réseaux de ces souterrains, hein, ces forces en fait plutôt souterraines qui étaient déjà là depuis la guerre froide, mais auxquelles on prêtait pas vraiment d'importance, comme Al-Qaïda, tout ça, ça venait de la guerre froide, de l'Afghanistan, de l'affrontement entre les Russes et les Américains par personne interposée en Afghanistan, et que tout ça ressurgit tout d'un coup et laisse le monde non seulement médusé, mais immobile. C'est-à-dire, c'est le moment où tout s'arrête. Souvenez-vous, hein, y a plus d'avions, le ciel est vide, tout est annulé, on ne peut plus se rendre aux États-Unis pendant 2 semaines. Voilà, des choses qu'on avait jamais vues. Et qu'on pensait justement, dans ce ciel soi-disant serein que nous laissait la chute du communisme, qu'on pensait absolument impossible. Donc ça, c'est peut-être pas un point final pour le XXe siècle, mais en tout cas le point de départ d'autres choses. Et voilà, c'était un peu mes deux points de ce parcours lié à Paul Hudbert.
Et qui va déclencher aussi des choses très importantes, parce que juste après le 11 septembre 2001, alors c'est peut-être pas le retour de la guerre, puisque les guerres souterraines et les guerres lointaines ont toujours existé, mais c'est l'accélération, puisque ça va être l'Afghanistan, ça va être l'Irak, et le reste.
Le soir même du 11 septembre, les premiers missiles sont tirés sur l'Afghanistan, et ensuite très vite ça va être l'Afghanistan, mais aussi l'invasion de l'Irak, pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir théoriquement. Si on regarde a priori, on se dit mais comment est-ce que c'est possible que on ait laissé faire cela sur des mensonges absurdes à propos des armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui dans l'imaginaire général était lié à tout d'un coup, un peu comme si on avait dans les gravats du 11 septembre aperçu une forme de conspiration mondiale contre le bien. Hein. Souvenez-vous, c'est le moment de l'axe du mal, de tout ça, hein. Qui n'est pas très glorieux. Ce qui est fou, c'est Blair. Et vous vous souvenez, il y a eu cette image de Blair, Bush et José María Aznar, à l'époque, le président espagnol, qui se retrouve aux Açores, ou je ne sais plus où, je crois que c'est aux Açores, et qui décide réellement de la réalité de cette intervention. Et Blair raconte dans les conférences, hein, aujourd'hui, que bien évidemment, il savait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, en tout cas, il pensait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, mais qu'il fallait le faire. Et on se demande comment ce type ne se fait pas seppuku de déshonneur immédiatement, directement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, de la destruction d'un pays entier. Et il en parle, sans éprouver le moindre remords. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ce genre de personnalité, je pense, qui est assez fascinante pour pour un écrivain, un autre que moi, parce que je ne veux pas m'intéresser à ces gens-là. Mais...
Je vois que ça file très vite. Encore une ou deux petites choses rapidement, puis après je donne la parole bien sûr au lecteur. On n'a pas parlé de Maya, du personnage qui est la compagne de Paul, qui elle va prendre un trajet différent d'un point de vue politique, puisqu'elle, elle va quitter la RDA. Elle va d'ailleurs avoir des très hautes fonctions dans l'Allemagne de l'Ouest. Et finalement, tout ça est reconstitué à travers les lettres que réunit le puzzle qu'essaye de réunir leur fille Irina. Et en même temps, c'est une super belle histoire d'amour. C'est peut-être un peu bêta de dire cela, mais c'est une histoire d'amour au fil du siècle. C'est une histoire d'amour qui est en lien avec les tragédies du siècle, en lien avec les questions de trahison, en lien avec les ambitions, avec la soif de pouvoir, avec ce qu'on croit être l'efficacité politique. Ça traverse aussi le livre. Tu avais envie de cela aussi
Comme ça a traversé le siècle. Ça, c'est vraiment une histoire allemande, pour le coup, très... C'est-à-dire que des exemples comme ceux de Paul et de Maya, il y en a eu plusieurs, beaucoup. Alors certains imposés, une séparation imposée par les événements, où chacun se retrouve d'un côté ou de l'autre du mur. Et puis il y en a eu un peu par choix aussi idéologique, où l'un des deux conjoints ne souhaitait pas nécessairement... quitter son pays, sa situation, et ainsi de suite. Donc ça, en Allemagne, ça a été traité par le cinéma, la littérature. Et ce qui, en France, parce que pour nous, évidemment, le mur est quelque chose d'infranchissable. On ne voit pas très bien qu'il y avait quand même... Voilà, il y a toujours eu des exceptions et des façons de passer très vite. Disons, il y a... à partir de 1972, il y a déjà des règlements pour faciliter le passage des gens de Berlin-Ouest à l'Est. Donc il y a quand même toujours eu une forme de contact possible de l'un à l'autre. Le téléphone marchait quand on avait de la chance. Mais certains, en tout cas, qui possédaient le téléphone à l'Est avaient la possibilité de téléphoner, par exemple. Donc il y avait quand même des liens de contact qui aujourd'hui, et que j'ai découvert moi aussi en menant cette enquête sur cette possibilité de vivre séparés dans deux régimes différents, mais qui sont le même pays. Et ça, c'est quelque chose de très important, que j'ai mis du temps à comprendre. C'est que pour les Allemands, et pendant très longtemps, et surtout ceux qui ont grandi, qui sont nés avant, c'est le même pays. Ce n'est que petit à petit que l'Allemagne de l'Est comme pays va se construire, j'ai envie de dire, dans les têtes même de ceux qui vivaient là. Et c'était des façons différentes de vivre le même pays. Qui dit façon différente de vivre le même pays dit, par exemple, un livre publié à Berlin-Est. Il y avait énormément de maisons d'édition, attention, en Allemagne de l'Est, c'est... je sais plus combien de milliers de livres, millions de livres publiés dans toute l'histoire de l'Allemagne de l'Est. Bien souvent, il était publié au même moment à l'Ouest. Beaucoup d'auteurs, quand ils étaient publiés à l'Est, publiaient aussi en Allemagne de l'Ouest, puisque en revanche, les exemplaires ne passaient pas forcément facilement la frontière, comme tous les biens matériels d'ailleurs. Donc, il y a peut-être. Alors, c'était bien plus vrai, bien sûr, dans un sens que dans l'autre. Mais il y a aussi cette unité linguistique. On discutait beaucoup des choses culturelles. Et puis, il y avait cette enclave berlinoise de l'Ouest qui avait beau être Berlin-Ouest, était quand même, finalement, extrêmement proche de l'Est, puisque les habitants de Berlin-Ouest avaient la possibilité de s'y rendre. Alors, plus ou moins difficilement, mais ils pouvaient quand même s'y rendre. Il y avait... même les intellectuels qui vivaient et travaillaient à Berlin-Ouest avaient tous des liens à l'Est. Même quelqu'un comme Max Frisch, par exemple, le grand auteur suisse-allemand, raconte dans son journal berlinois, lui il habitait à l'Ouest, dans le sud de Berlin, qu'ils avaient des dîners à l'Est. Alors c'était long pour s'y rendre, c'était long pour en rentrer, mais avec des intellectuels est-allemands. Bien évidemment, tout ça a été extrêmement surveillé, mais il y a toujours des espaces qui, de liberté qui se fabriquent à l'intérieur de l'oppression. Et c'était aussi dans l'optique du régime est-allemand, une façon bien évidemment de contrôler du mieux possible hein, tous ces intellectuels qui pouvaient vous donner une façon aussi d'être influent à l'Ouest, parce que c'était toujours l'idée qu'il y a derrière l'Allemagne de l'Est et les Soviétiques, c'était comment est-ce qu'on peut évidemment gagner en pouvoir. Donc, bien sûr, il fallait se trouver des moyens d'obtenir des informations, mais aussi d'envoyer des espions à l'ouest, des gens qui, en échange du fait qu'on les laisse passer à l'ouest, par exemple, puissent fournir des informations. Enfin, voilà, on connaît tous ces récits complètement incroyables des fameuses secrétaires d'Allemagne de l'Ouest qui avaient été formées déjà enfants en Allemagne de l'Est pour devenir espionnes à l'ouest. Bon, tout ça, c'est des cas qui jouent à la marge, mais qui disent beaucoup justement de cette connexion-communication qu'il y avait quand même entre les deux espaces.
On pourrait continuer longtemps, mon cher Mathias, mais je t'en prie.
Pourquoi je parlais de ça? Je ne me souviens plus.
C'était pour la relation avec Maya manière dont tu l'avais envisagé, cette histoire d'amour au fil du ciel.
Mais oui, mais ça reste quand même une histoire d'amour, au fond. Hein, pas...
Si vous souhaitez prendre... la parole, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez peut-être poser une question à Mathias ou poursuivre la conversation. Pas de questions pour l'instant. Si, une question juste là, allez-y.
J'ai pas encore lu le livre, je suis désolé parce que je vais m'y mettre très vite. Mais est-ce que... le livre n'illustre pas magnifiquement l'opposition qui peut exister entre mémoire et histoire à travers ces deux fils conducteurs dont on a parlé et qui est un débat classique un peu en historien et entre mémoire et histoire.
Oui, non, je crois pas. En tout cas, c'était pas le propos parce que c'est vraiment dans le récit que Irina est historienne, celle qui nous raconte l'histoire, qui s'appelle Irina, qui est la fille de Paul et de Maya, elle est historienne. Et elle reconstitue l'histoire de ses parents dans un espèce de texte un peu d'égo-histoire. À partir des sources, elle cite les lettres de ses parents, ainsi de suite. Et dans l'autre récit, on est même en deçà de n'importe quelle mémoire, puisque c'est plutôt une forme de mémoire extrêmement sensible, de quelques souvenirs d'enfance, des bribes de sensations, et qui n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler mémoire. Donc même si ce rapport entre histoire et mémoire m'intéresse beaucoup, hein, dans la façon dont on peut opposer ou conjuguer souvent les deux. Là, c'est pas vraiment le cas.
Oui, je vais parler d'autre chose. Là, vous avez parlé d'histoire, de mouvement, de plein de choses. Je voulais revenir au personnage. À l'impression que j'ai eue à certaines lectures de la noirceur, enfin du pessimisme qui, alors je sais pas, c'est une question, hein, c'est qui vous habite, parce que vous avez parlé beaucoup d'utopie, d'espoir, etc. Moi, j'ai trouvé très noir l'intérieur des personnages. Je pense à deux personnages qui, pour moi, se correspondent à 20 ans d'écart. Le déserteur, qui à plusieurs moments, quand il a rencontré la femme, pense à la tuer, pour moi assez gratuitement. Il ne la tue pas, mais il pense à la tuer. Et j'ai repensé au sniper dans La perfection du tir, qui également veut s'approprier, violer, et pense à tuer également cette jeune qui garde sa mère à certains moments, qui s'en va, etc. Donc, voilà, c'était... ma question, c'est sur qu'est-ce que vous pensez, enfin comment vous, qu'est-ce que vous pensez de la nature humaine en général, ou est-ce que vraiment vous êtes pessimiste ou c'est simplement ces personnages?
Alors justement, peut-être en 20 ans, vous voyez, j'ai évolué parce que là, il se pose la question, mais il le fait pas. Donc ma vision de la nature humaine a un peu évolué. Alors il le fait pas pour des très mauvaises raisons, parce que c'est il est un peu épuisé, quoi. C'est fatigant. Mais et puis il a pas forcément envie de souiller justement ce lieu, cette cabane, ces souvenirs d'une mort supplémentaire. Et puis il commence un peu un espèce de chemin justement qui va peut-être le mener vers autre chose. Mais c'est vrai, et ça, je suis malheureusement convaincu, c'est pas moi qui le dis, hein, mais que quand on voit l'effet avec le temps de la puissance des armes et de la simplicité de leur utilisation dans les endroits où justement tous les codes moraux, lois, éthiques sont tombés, on se dit que la nature de l'homme, en tout cas, elle est ni dans le bien ni dans le mal, mais elle est dans l'adaptation à ces circonstances qui font que, finalement, quelque chose de très, je pense, de beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est très facile de retirer toute la loi morale à quelqu'un. Vous lui donnez une arme, vous lui dites que c'est un soldat et que c'est son devoir de tirer sur celui qui est en face. Et qui ne voit pas forcément, et qui ne connaît pas. Il n'y a rien de plus simple. Ça se produit extrêmement facilement. Donc, ce n'est même pas une réflexion sur la nature humaine, ou sur sa possible noirceur. C'est juste une espèce de conséquence de la réalité des possibles transformations, selon les circonstances, de nous-mêmes en fonction, pour des aspects qui vont depuis la pression collective ou l'absence de loi, tout simplement, des questions psychologiques, un effondrement, et qui font qu'on peut toujours basculer dans autre chose. Et ça s'est produit et ça se reproduira encore.
Et puis ce personnage, il dit mais aussi comment il est difficile de fuir la violence, à la fois celle que tu as subie et celle que tu as donnée.
Exactement, non, c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il est un peu dans cette espèce de no man's land, justement, où avant, on n'est pas encore dans la paix. La paix, ce serait le stade après, justement, la frontière. Là, on n'est ni dans la guerre ni dans la paix, et on va essayer de parvenir à retrouver une certaine forme d'humanité. Et plus juste se contenter de regarder souffrir ou regarder mourir de loin, mais sauver, participer, reprendre une forme de construction. Sans trop raconter l'histoire. Mais.
Comment, madame ?
Alors, ils ne meurent pas tous. Les personnages féminins ne meurent pas tous. C'est très exagéré de dire ça.
Elles sont plus violentes, elles sont plus acharnées que les hommes.
Ah, peut-être. Oui, en tout cas. Est-ce qu'elles sont plus acharnées ? Non, je pense qu'il n'y a pas pour ça.
Jusqu'au boutiste.
Peut-être. En tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence de nature. Mais en revanche, il y a des différences de conséquences, on va dire, de l'ordre social dans laquelle on se trouve, qui sont différentes selon les lieux et les. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une forme de. Disons que, comme tous mes personnages, comme tous les personnages de romans presque en général, les femmes se transforment aussi. Et là encore, en essayant de trouver des périphrases sans trop raconter les histoires, oui, bien sûr, elles parviennent à autre chose. De la même façon qu'elles se transforment comme les hommes aussi. Mais c'est vrai qu'elles sont souvent victimes, comme c'est le cas. Malheureusement, c'est aussi tristement très vrai dans les conflits guerriers.
les conflits armés, les femmes sont bien sûr des victimes, mais ce sont aussi des proies. Hein. Et dans le livre, oui, on voit ça un peu, comment est-ce qu'il faut un peu échapper à la prédation.
Peut-être une dernière question sur le... Ah oui, allez-y, je vous en prie, madame, si vous voulez bien faire passer le micro.
Oui, moi, je me posais la question de la jeune secrétaire bosniaque qui est...
Elle n'est pas secrétaire, elle est mathématicienne.
Qui est mathématicienne, oui, je ne savais plus. Et moi, je m'attendais à ce que éventuellement l'élastique soit là, c'est-à-dire que la tresse se retrouve là. Je ne sais pas. Voilà. Quel est pourquoi caractériser cette femme comme bosniaque et
Il y a pas mal de nationalités autour dans ce colloque annulé. Ils se retrouvent tous autour d'une table et ils parlent de Paul Hudberg. Et justement, c'était un peu une façon, comme ils se retrouvent tous là, tous les fils se rejoignent là, et c'était une façon un peu de lancer des fausses pistes, bien sûr, de se dire, il pourrait y avoir beaucoup d'endroits dans l'histoire du déserteur. Alors, la partie maritime de la Bosnie est très étroite, mais effectivement, on pourrait se trouver à la limite entre la Croatie et la Bosnie. On pourrait se trouver en Espagne pendant la guerre civile, on pourrait se trouver en Syrie, c'était un peu entre la Syrie et la Turquie, à l'extrême nord-ouest de la Syrie, ce qui était le paysage de départ, pour rien vous cacher. Et l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit tout cela à la fois, pas uniquement un lieu, mais que à chaque fois qu'on décide, qu'on prenne la décision, ah, ça y est, j'ai compris, c'est là, ben oui, c'est possible. Il y a même un indice qui vous dit que oui, c'est possible. Mais c'est possible dans beaucoup de cas, pas uniquement avec cette mathématicienne bosniaque.
Allez-y.
Alors, moi, il y a deux autres, je ne sais pas si on peut appeler ça des personnages, qui m'ont énormément touchée, c'est la présence de l'âne et la présence de la nature, des odeurs, des senteurs. Et ça, j'ai trouvé ça très puissant et très vivant, quand même, du côté de la vie.
Oui, alors, l'âne, je me souviens quand j'écrivais le texte, Myriam Anderson, qui est une éditrice aux éditions Actes Sud, lisait un peu derrière mon épaule, comme ça, et elle me disait, tu ne tues pas l'âne.
Elle vous connaît bien.
Tu ne tues pas l'âne. Je te vois venir, tu ne tues pas l'âne. Donc je ne vous dirai pas si je l'ai écouté ou pas, mais l'âne, il est important parce que justement, il montre un peu un autre point de fuite qui est celui de l'animalité. L'animal, il a, lui aussi, c'est une proie, il a peur, mais il réfléchit d'une façon complètement différente de celle des humains, bien évidemment. Il a d'autres enjeux, d'autres façons de penser le rapport à ce qui l'entoure. Et donc, bien sûr, il est là et il montre une façon très différente d'être face à la catastrophe, au malheur, à la blessure, et ainsi de suite. L'âne est extrêmement différent. Et donc, c'était un personnage extrêmement important parce qu'il est un peu ce troisième point de vue qu'on n'entend pas, dont on peut essayer peut-être de deviner plus ou moins les sentiments ou les sensations.
Je voulais finir, Mathias, avec peut-être une question, vu qu'on se retourne sur tes 20 ans de travail. J'ai évoqué la perfection du tir et je disais que ce n'était pas situé, mais qu'on pouvait reconnaître Beyrouth. Là, tu parles de la Syrie, on a parlé de zones, etc. Est-ce que tu as idée, est-ce que tu as dans ta vision quelque chose qui se serait produit pour que le lycéen niortais que tu étais ait été à ce point-là fasciné à la fois par l'Orient et bousculé par cette question de la guerre? Est-ce que tu arrives à penser à un moment dans ton parcours qui...
Alors la question de la guerre, oui, plus. La question de la guerre, et là je m'en suis plus récemment rendu compte, la question de la guerre, la violence de guerre, en tout cas, je pense qu'elle m'arrive très directement par mon père, à travers mon grand-père. C'est que mon père a perdu son frère jumeau et un autre de ses frères, enfant, en Algérie, à Philippeville. Et pendant que mon grand-père était en poste à Philippeville. Et ça, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point, non seulement ça avait été quelque chose d'extrêmement fort pour lui, bien sûr, même s'il était tout jeune, il avait 4 ans, mais peut-être justement parce qu'il ne pouvait pas élaborer ce trauma très puissant, qu'ont été les émeutes de Philippeville, et les massacres, on appelle ça en français les massacres de Philippeville, en 55, je pense que quelque chose de ça m'a vraiment été transmis. Et puis la violence de guerre, elle était avec moi à table dès que j'allais chez mes grands-parents. Mon grand-père a été un soldat professionnel, parachutiste, qui s'est battu dans 3 guerres, dans 2 conflits coloniaux, qui avait le corps couvert de cicatrices et qui possédait bien sûr un nombre incalculable de médailles, ce qui était assez amusant pour jouer, évidemment encore des éléments d'uniforme, mais aussi une arme, par exemple. Donc c'est la guerre, elle était là et elle était extrêmement matérielle, en fait.
Eh ben merci Mathias pour cet entretien, c'est toujours un plaisir. Merci. Vous retrouvez Mathias pour un temps de signature juste là derrière à la librairie.
Merci.
Merci Mathias. Merci.